Le succès en salle de Un petit truc en plus a évidemment changé beaucoup de choses pour Artus. Et finalement, le changement auquel il tient le plus, c'est la liberté que ça lui a donnée.
Ça y est, je suis plus obligé d'être aussi boulimique et de dire « Attends, attends, faut que je fasse ça. Attends, non, non, parce que ça, si je fais pas, on va m'oublier. Attends, 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 je vais être là. Regardez, je suis là. » Il y a vraiment ce truc de « Ok. Bon, ben, je vais faire ça, parce que j'aime beaucoup. Je vais prendre un petit peu de ça aussi. Regardez, hop, voilà. Et du coup, je fais ma petite salade et mon truc, sans me dire « Attends, 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 je vais manquer de ça, je vais manquer de ça. » Et vraiment, ça change absolument tout.
Une échappée avec Victor Artus Solaro, dit Artus, c'est Totemic jusqu'à la prochaine heure. Un petit truc en plus est sorti le 1er mai l'année dernière et quelques mois plus tard, Artus revient comme comédien d'un premier film. Il est réalisé par Antoine Chevrolier. Artus parle de lui comme ça. Si ce gars venait à me demander de jouer un canapé, je le ferais. Antoine Chevrolier et Artus se sont rencontrés pour le tournage de la série Le Bureau des Légendes et le mercredi 5 février, c'est la sortie en salle de La Pampa. La Pampa est l'histoire d'une amitié entre deux garçons. L'un des deux vit une histoire d'amour contre laquelle va se soulever un village entier. Au moment même où sort ce beau film, Artus est en tournée dans toute la France avec son one-man show. Je l'ai retrouvé à Paris entre deux dates et dans un hôtel où l'équipe du film donnait des interviews. Ça se passe souvent comme ça, mais quand même, c'est un peu étrange de parler avec quelqu'un qu'on ne connaît pas dans un hôtel avec vue sur une salle de bain. Nous étions donc plusieurs collègues, mon tour est arrivé en fin de journée et j'ai compris qu'Artus avait du temps parce que quelqu'un a passé une tête en disant « Vous voulez un verre d'eau ? Parce que ça va être un peu long. »
Totemic. Rebecca Manzoni sur France Inter.
C'est bon, la porte est fermée ?
Pas complètement, mais...
Donc moi je m'appelle Rebecca Manzoni.
Je sais très bien.
Alors si vous connaissez l'émission, il s'avère que chaque semaine je demande à l'invité de choisir un tube. Mm-hmm. Et vous, vous avez choisi un tube américain. Je vous ai apporté un casque pour vous le remettre dans l'oreille.
Ah oui.
Alors.
Strumming my pain with his finger. Nous sommes en 1996. Et Lauryn Hill des Fugees chante ceci.
Ça a été ma première histoire d'amour, mon premier baiser, c'était sur cette chanson. C'était une époque un peu insouciante, où il n'y avait pas les problèmes d'adultes, où il n'y avait pas... Donc il y a vraiment... Et puis je trouve qu'elle a la voix de Lauryn Hill qui est quand même incroyable. Puis c'était la naissance du hip-hop, on découvrait ce nouveau style musical avec des rythmes qu'on n'avait pas encore entendus, avec des voix, avec des mecs qui parlent un peu dessus. Enfin voilà, je trouve qu'elle est... Elle est incroyable, je pense. Et puis à l'époque, il y avait encore des slows. Et putain, qu'est-ce que ça me manque, les slows. Moi, j'avais envie à un moment d'acheter un club à Paris, d'ouvrir une boîte de nuit juste pour pouvoir remettre les slows. Aujourd'hui, on drague, les jeunes, ils draguent. Il y a un truc un peu dans des boîtes où il y a du bruit. Ça va, comment tu t'appelles? Et là, il y a un truc de... Ben voilà, on laisse juste parler les corps. Ce premier, en plus, c'était des slows. Vous savez, à l'époque, on avait les bras très tendus comme ça. Il y avait vraiment un truc de... On n'osait pas se regarder, on regardait nos potes en mode ça va. Ouais, ça se passe bien, ouais, je suis content. Enfin, tu vois, il y avait un truc très timide et très maladroit, mais je me souviendrai toujours avec Céline, elle s'appelait.
Et vous étiez où ?
J'étais à Lugano, en Suisse italienne. Je vivais à Lugano, qui en plus était une petite ville paisible. Donc vraiment, voilà, moi c'était une petite bulle de paradis au bord du lac, avec cette culture plus italienne qu'il y avait là-bas.
Solaro, c'est italien ?
Tout à fait, c'est d'origine italienne.
Et après, vous avez vécu à Montpellier.
Oui.
Et ensuite, vous êtes venu à Paris pour suivre des cours de théâtre.
Mmh.
Et après, vous avez quitté Paris assez rapidement. Vous êtes allé au cours Florent. Qu'est-ce que vous y avez appris ?
J'ai appris que en fait, le cours Florent allait me prendre surtout mes économies plus que m'apprendre des choses. Et que cette grande ville qui était Paris, de la tolérance pour moi et de l'ouverture, au final, avait les mêmes stéréotypes sur le reste. Et que moi, j'étais juste le gars de province qui arrivait avec un peu de bide, avec une gouaille de rugbyman, et qu'on m'a dit « Non, mais gars, ici, tu vas mettre des répétos, t'auras les cheveux longs, et puis on va te regarder un peu de haut. » Donc c'est pour ça que je suis reparti dans le sud. J'ai joué dans un café-théâtre à Montpellier, où je me sentais à ma place. Parce que vraiment, ça m'avait un peu démoralisé, cette histoire au cours Florent, ce truc de me dire « Waouh, en fait, ouais, ça va être compliqué de faire son trou, parce que je colle pas dans le moule de ce qui m'entoure. » Et j'avais un bac pro cuisine, j'étais cuisinier, c'est mes parents qui m'ont dit « Écoute, t'as plus qu'à écrire un spectacle, tente, au pire tu retournes en cuisine. » Et je pense que ça a été une force, parce que pendant des années, j'ai vraiment fait ce métier en me disant « De toute façon, je suis cuisinier. Je fais que passer, vous inquiétez pas, je suis cuisinier, je vais retourner en cuisine très rapidement. » Et puis au final, aujourd'hui, je me dis peut-être que je vais pas retourner en cuisine tout de suite. Mais c'est vraiment là un petit truc en plus qui m'a permis d'avoir ça.
Ça veut dire que pendant quasiment 15 ans, vous vous êtes dit que le comédien, c'était bonus.
Oui, parce que, en fait, on...
Ce qui est assez long, quand même.
Ouais, mais je pense que pour beaucoup de comédiens, on dit que la moyenne, c'est 10 ans pour percer, ou c'est 10 ans. Et du coup, des fois, on fait des projets qui ne nous tiennent pas à cœur, mais parce qu'il faut les faire, parce qu'on a peur de disparaître, parce qu'on a peur que le public nous oublie, on a peur que... Voilà, donc ça y est, je suis plus obligé d'être aussi boulimique et de dire « Attends, faut que je fasse ça, attends, je vais être là, regardez, je suis là. » Donc voilà, là, c'est la première fois qu'il y a un tampon, il y a un truc où « Ça y est, je crois que j'ai peut-être un peu marqué la rétine des gens et que peut-être ils vont pas m'oublier tout de suite. » C'est le public qui a fait que c'est devenu... Sinon, c'était un film qui passait parmi d'autres. Et voilà, c'est eux qui m'ont mis un tampon de « Gars, on t'aime bien, je crois, tu peux rester un peu. » Voilà.
Relax.
L'une des balises du parcours d'Artus,
parfaitement relax,
c'est le bureau des légendes.
Bouddha, quoi?
Bouddha avec une cravate.
Dans la saison 3 du bureau des légendes, il joue le rôle de Jonas Mori.
T'as entendu parler d'Abu Djihad?
Non.
On dit de lui que c'est le Kaiser Soze de l'État islamique.
D'accord.
Tu sais pas qui est Kaiser Soze?
Non.
C'est une figure mythique dans un film. Le cerveau d'une organisation criminelle qui a l'air tellement de rien que les flics le laissent filer.
Vous êtes entré dans cette série avec un réalisateur, Antoine Chevrolier, qui est aussi le réalisateur de La Pampa. Qu'est-ce que ça a représenté pour vous, le Bureau des légendes ?
En fait, ça m'a un peu cassé une image que j'avais, parce que j'ai toujours critiqué ce truc de le cinéma d'auteur est sérieux et pas intéressé par les acteurs de comédie et machin... Et donc moi, je vais au casting du Bureau des légendes avec ce truc en tête de me dire « Je sais même pas pourquoi j'y vais. Ça sert à rien, ils vont pas me prendre. » Il y a un moment, ils vont aller chercher un mec qui a le tampon Télérama et voilà, mais ils vont pas venir chercher Artus qui fait Vendredi, tout est permis et Laurent Riquet. Donc vraiment, j'y vais en me disant « J'ai même dit à mon agent, je perds une heure, hein, mais vas-y, je vais le faire pour te faire plaisir, mais je perds une heure. » Et au final, je tombe sur Antoine et qui en fait s'en fout, il cherche le rôle, il cherche le gars pour interpréter Jonas, et il s'en fout de ce qui a été fait à côté, il s'en fout de... Voilà. Et du coup, je me suis dit, putain, c'est cool, il y a quand même, dans cet univers-là, des gens prêts justement à s'en foutre et prêts à casser un peu les codes, à ouvrir les portes, et voilà. Et après, Antoine, ça a été une rencontre... Aujourd'hui, c'est un ami, on part en vacances ensemble, on est très très proches, et je trouve ça cool d'avoir cette amitié justement avec ces deux cinémas qui, parce qu'on va pas se mentir, il n'y a pas cette grande famille du cinéma de on s'aime tous, on est machin. Il y a la comédie et le cinéma d'auteur plus sérieux, voilà. Et on a encore un peu de mal. Et nous, on vient chacun de cette famille. On a un peu Roméo et Juliette, quoi. Lui, il est chez les Montaigu, moi chez les Capulet. Et on a un peu nos deux familles qui se détestent, mais nous, on arrive à vivre une histoire d'amour ensemble. Donc je suis très fier de ça.
Et dans le même temps que vous tournez le Bureau des légendes, vous êtes dans Danse avec les stars,
ouais.
Sur TF1.
Ouais. Mais en fait, c'est marrant parce que j'accepte Danse avec les stars parce que j'ai le Bureau des légendes. En fait, je me dis, bon, le Bureau des légendes, ça va me donner une crédibilité dans le cinéma. Le Danse avec les stars, ça va me le mettre tout en bas. Du coup, je vais être dans une moyenne, je vais rester au milieu, quoi. Mais ouais, j'avais envie de... Ça, j'ai dansé avec Marie-Claude Pietragala, et rien que pour ça, je suis ravi d'avoir fait cette émission. J'avais 30 kilos de plus à l'époque, de montrer que tous les corps peuvent bouger, que tous les corps sont... qu'on peut être gracieux et faire 140 kilos. Voilà, essayer de bouger un petit peu ces codes. J'ai eu un peu de mal à faire bouger avec la production, parce que on met torse nu le gars qui a des abdos, et puis le gros, on lui met une chemise dans le pantalon pour bien montrer qu'il est gros. Mais voilà, j'avais envie de montrer qu'on peut faire des choses, même quand on n'est pas une gravure de mode. Voilà.
Et ça, en fait, ça existe quasiment dès le début, avec un sketch qui vous a fait connaître au Festival de Montreux.
Le Québécois.
Qui s'appelle Le Québécois, où vous arrivez
en débardeur, et que je montre mes tétons pendant plus de la moitié du sketch. Moi, j'ai jamais eu de complexe sur mon corps. Évidemment, j'ai toujours eu conscience que j'étais gros, que j'étais voilà. Mais en fait, c'est le regard des autres qui nous rappelle. Oublie pas que t'es gros, hein. Oui, mais enfin, tout va bien. Ouais, mais oublie pas que c'est pas normal. Tu devrais pas être gros. Hein. Si tu veux être beau, c'est... Et en fait, c'est tout ce truc qu'on nous rajoute et qu'on nous rappelle, mais que en vrai, aujourd'hui, a posteriori, le bureau, c'est ça. Le bureau, quand je passe le casting, je passe un casting de gros.
Ça veut dire quoi, passer un casting de gros ?
Ça veut dire que le rôle de Jonas, ils ont cherché des acteurs gros. Mais c'est pour ça que rien n'arrive par hasard et que je suis très heureux d'avoir été gros à ce moment-là, parce que sinon j'aurais pas fait le Bureau des légendes et sinon j'aurais pas fait... Mais en finale, je suis pris parce que je suis gros. Et parce que je suis le meilleur des gros. Mais, enfin, en tout cas, je suis celui qui correspond le plus à ce moment-là, mais je suis quand même un gros.
Parce que le rôle est écrit en fonction de ça, en fait.
Oui, bien sûr. Et après, le tout, c'est d'arriver à sortir de là et de dire... Moi, tous les rôles qu'on m'a proposés après le Bureau des légendes, c'était les rôles de gros. C'est le meilleur pote qui est gros, qui fait que bouffer, c'est le machin et tout. Et c'est de là qu'il faut réussir à dire non, je veux pas, je veux pas faire ce truc-là, je veux pas aller là-dedans, je serai pas le gros de service, je peux faire autre chose. Et à un moment, on m'avait proposé, et là je me suis dit, ah, peut-être que les choses changent, on m'avait proposé une super comédie romantique qui au final ne s'est pas faite, où je jouais un peu l'antagoniste, donc j'étais le Hugh Grant. De cette comédie romantique, et je me suis dit, c'est cool, ça y est, on va comprendre que les gros, ils ont quand même des relations et qu'ils peuvent séduire et qu'ils peuvent plaire, et que donc c'était un peu ça, c'était réussir à sortir de ça. Puis voilà.
Elle est poétesse, prénom Brigitte, nom Fontaine, le titre Embrassons-nous.
Et pile de perles où se toi. Dans le dortoir, les hôpitaux, enfants, vieillards et pas d'adultes, ni trépassés, la douleur est souvent un culte pour les curés. Ce pays, c'est des hôpitaux. Des abattoirs, sortons nos mouchoirs à carreaux. Et puis, bonsoir, embrassons-nous, embrassons-nous, embrassons-nous. Épines de perles en ce toit. Le long du dos, gémissement dans les dortoirs, les hôpitaux, personne ici ne va mourir. Nos cinq sœurs, l'autre monde est peut-être pire, et on a peur. Je sais, ce que je dis est mal. De mes yeux bistres, une larme sur ma joue pâle. Ok, c'est triste. Embrassons-nous. 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 Épines de perles, pense-toi, le long du dos, gémissement dans le dortoir.
Brutus a commencé à jouer dans des cafés-théâtres de Montpellier. 10 ans plus tard, le succès en salle d'Un petit truc en plus aurait pu l'éloigner de la scène, mais non. En ce moment, Artus fait une tournée des Zéniths avec son one-man show.
C'est vraiment un ping-pong. C'est moi et les gens en face. En fait, c'est le public qui impose un rythme. Et c'est à nous de nous caler dessus aussi.
C'est le public qui impose le rythme.
En fait, c'est vraiment un truc d'écoute. On ne peut pas être dans sa bulle et faire son sketch comme tous les soirs en se disant « Je l'ai fait exactement comme hier et il a moins bien marché. » Ben oui, mais parce que justement, tu l'as fait exactement comme hier. Et souvent, le défaut, je trouve, de quelques humoristes, c'est de laisser mourir le rire. Je pense qu'il faut... Ça rit dans la salle. Démarre ta vanne d'après pendant que ça rit, parce que sinon, en fait... Quand tu fais des grandes salles, là j'ai la chance de faire une tournée de Zénith, le rire c'est vraiment une vague. Il part et il revient par le son, tellement c'est grand, il y a un truc de... Et en fait si t'attends le retour de cette vague, bah, ton sketch il va être hyper dérythmé parce que tu te seras mis dans le rythme de « ok il y a un rire, j'attends ». Des fois c'est un silence qui dure une seconde de trop ou une seconde pas assez, la vanne elle tombe pas. En fait c'est vraiment aller écouter les salles. Quand on écrit des sketchs ou quand on écrit des films, il y a des vannes, on se dit, moi, il y a des fois, j'ai écrit des vannes en me disant, ah, celle-là, elle va tabasser, elle me fait mourir de rire. Et en fait, on la joue, on fait, ah, bon, bah non. Moi, je donne 3 chances aux vannes. Voilà, je la reteste. Non, toujours pas. Je la reteste. OK, bon, bah, allez, poubelle. Donc, en fait, on ne sait pas ce qui va être drôle. Par exemple, nous, on s'est rendu compte sur le film qu'il y a une vanne qu'on perdait parce que les gens riaient sur la vanne d'avant. Donc là, tu dis, bah, ok, bah, alors laissons juste ce rire-là, et on la met un tout petit peu après, comme ça, bam, elle retombe. Donc c'est qu'une question de demi-seconde, de laisser décaler, d'écouter la musique, ok, là ça rit comme ça, là machin, mais comme sur l'émotion, et comme sur, voilà. Et c'est là que le montage est hyper important, c'est qu'on remet les doigts dedans, et on se dit, parce qu'après on l'a vu tellement de fois le film, en plus, qu'à la fin t'es plus objectif. Moi, j'en pouvais plus. Il n'y avait aucune vanne qui me faisait rire hein, sur un petit truc en plus. Et il n'y avait aucune émotion. Et je me disais, OK, j'ai fait le pire film du monde. Allez, c'est une merde. Et en fait, on le montre. Enfin, si, non, ça a quand même rigolé. C'est cool.
Vous aviez peur le premier jour de tournage ?
Oui, j'avais pas peur. En fait, j'avais peur. Moi, j'étais confiant. Je savais que je voulais faire mon film. Je savais comment je voulais le faire. Maintenant, j'avais peur qu'on ne me donne pas les clés. J'avais peur que les équipes techniques se disent « Allez, encore un humoriste qui fait son premier film, vas-y, fais-nous une bouse. Ouais, d'accord. Tu vois, pense que t'es réel, vas-y. » Donc j'avais peur qu'on n'ait pas confiance en moi. Et en fait, j'ai eu une équipe de fous. J'ai eu Jean-Marie Drojoux, qui est le chef opérateur de Jean-Jacques Hanou, donc un mec qui a une expérience folle. Et il m'a dit, le premier jour de tournage, il m'a dit « Alors, boss, qu'est-ce qu'on fait ?» Et en fait, quand il m'a dit ça, je fais « Ok. » Donc, machin, on va faire ça, on se met là, paf, paf, paf. Et en fait, il a fallu peut-être 3 jours pour que les machinaux les plus bourrus et les plus machins se disent « Ok, il sait ce qu'il veut, il sait où il va aller, on le suit. » Et en fait, derrière, j'avais du coup, au bout de 3 jours, j'avais une armée derrière moi qui me disait « Bon, qu'est-ce qu'on fait ? On se met où ? On se fait là ? Ok, super, les gars, Artus, il veut qu'on se mette là, on fait ça, machin. » Et donc, t'as un truc tout de suite où tu te sens porté et tu dis « Ok, merci les gars. »
5 ans avant le tournage d'Un petit truc en plus, Artus est sur la scène du Festival de Montreux avec un sketch qui s'intitule « Le handisport » et qui sera ensuite relayé par la Fédération française de handisport.
Je vais être tout à fait honnête avec vous. Je fais plus trop de scènes tout seul en ce moment, donc voilà. Donc je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je vais leur faire et tout. Donc j'ai écrit quelque chose. Et alors, comme on est dans une période, voilà, on n'a pas le droit de dire plein de trucs, et que moi j'ai une carrière qui est un petit peu en train de monter, donc j'ai pas envie de la saboter. Donc voilà. Non, parce qu'à la base j'avais écrit un super sketch sur un juif pédé qui part faire le djihad. Et non, mais du coup non. Du coup je fais pas celui-là. Je vais en faire un autre. Et ouais. Ouais, et j'ai décidé de prendre un thème vraiment plus simple, et je vais vous faire un sketch sur les légumes. Voilà. En plus, sujet que je connais bien, hein. Alors, quand je veux parler des légumes, pour moi, ça n'englobe pas tous les handicapés. Attention, que ça soit clair. Et non, ouais, ouais. Évidemment qu'on va aller là-dessus. Vous êtes cons, quoi. Bien sûr que oui.
Quand je fais le sketch des Paralympiques à Montreux, je le teste à Montreux, et vraiment, je le fais en me disant... Fin de carrière, voilà. Je vais faire un sketch sur les Paralympiques, je vais me prendre des sauts de merde qui vont me dire « Ah, super, on rit avec le handicap, ah, machin et tout. » Et en fait, non, justement, les gens disent « Bah non, on est d'accord. » Et en fait, plus j'assume ce truc-là et plus je dis des choses, comme dans Têtu, où je parle de choses que j'ai vécues et de machin, en fait, tu te rends compte que ben, si tu dis aux gens, souvent, et c'est bien accepté, en fait, plus que de faire croire que t'es pas cette personne ou de faire croire que... Et je me censure pas, et voilà, parce qu'en plus, je pense que les gens... Les gens sont intelligents. Les gens savent que quand on dit des choses, quand c'est du second degré, quand la personne le pense vraiment ou pas. Voilà, moi, c'est pour ça que je me permets d'aller sur plein de sujets. Et quand je fais le personnage de Sylvain, qui est porteur de trisomie 21, ou en tout cas lourd de handicapé, si je l'avais fait il y a 10 ans, je pense que si je démarre par ça, on va me dire « Waouh, gars, c'est très gênant ce que t'es en train de faire ». Mais je pense qu'à force, on amène, et après on gagne une liberté qui... Et aujourd'hui, je peux dire ce que je veux sur scène, et je pense que, ouais, beaucoup de choses passent.
Mais en même temps, cette gênance, elle vous intéresse, non ?
Oui, oui, j'aime bien quand même aller créer un petit... Mais parce que je pense que plus on est frontal, il y a certains sujets où il faut être frontal pour que le message passe. Par exemple, dans un petit truc en plus, moi, ça me tenait à cœur à ce que Clovis dise les mongolitos, les mongols, parce qu'en fait, c'est un mot qui choque tellement. Ouais, mais oubliez pas qu'il y a quand même des gens qui l'utilisent encore, qui disent encore ça. Donc c'est vraiment mettre le doigt sur un truc de « ça vous choque ? » Eh bien, tant mieux. Parce qu'au moins, la prochaine fois que vous entendrez votre tonton au bout de la table dire « Oh putain, j'ai croisé un mongolito », vous direz « Non, tonton, tu peux plus dire ça, en fait. » Et donc, je trouve qu'il y a des fois, oui, il faut appuyer, il faut mettre le doigt sur un truc où il faut dire le mot, il faut dire les choses pour qu'elles piquent à l'oreille et qu'on se dise « Ah oui, ok, ouais, ça me choque. »
Vous avez cité l'interview de Têtu, où il y a toute une séance photo assez drôle, où vous vous amusez de toute l'esthétique, tous les codes gays, en fait, pour poser. Où vous parlez de votre sexualité, de vos expériences homosexuelles, de vos expériences, enfin, de votre sexualité ouverte, on va dire. C'est une interview qui compte pour vous, en particulier, puisque vous l'avez citée spontanément.
Oui, parce que je trouve ça... Je pense que pour les gens qui me suivent, depuis longtemps, moi, j'en parle dans le spectacle, je viens du rugby, je viens du truc, il y a un truc très... très masculin, très un peu bourrin, très voilà. Et je trouve que d'amener les gens sur ce terrain-là aussi et dire ben voilà, tu peux être ce gars-là qui je suis, mais en étant ouvert, mais en étant voilà, en assumant tes choix, en assumant ce que tu fais. Et c'est comme quand je vois Antoine Dupont faire la couverture de Têtu. En fait, je trouve ça génial de se dire évidemment quand c'est un artiste gay ou reconnu gay machin et tout qui fait la couve de Têtu, c'est top. Mais moi, le but c'est d'amener aussi des gens qui ne l'auraient pas forcément vu, qui ne l'auraient pas regardé. Ah, voilà. Je trouve que des féministes qui parlent du féminisme, c'est très bien. Mais si c'est quelqu'un aussi qui n'a rien à voir là-dedans, qui parle de féminisme, j'ai l'impression que ça amène aussi un autre regard de dire... Voilà, comme j'espère que les gens qui ont aimé un petit truc en plus iront voir La Pampa, et qui sont des gens peut-être qui ne seraient pas allés voir La Pampa. Et donc je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est d'aller amener des gens qui ne sont pas touchés par le sujet.
La Pampa est le premier film d'Antoine Chevrolier qui sort en salle mercredi prochain. Ça se passe dans un village au bord de la Loire. Jojo et Willy sont deux amis d'enfance, de ceux qui se disent amis à la vie à la mort. Ils font du motocross, Jojo comme compétiteur et Willy comme mécano. Voici un extrait de la bande-annonce de La Pampa.
Chaque fois que je reviens ici, j'ai l'impression d'être en 1950. Avec votre mentalité de merde, là.
Bon, les gars, il reste une course, hein. Allez, hein.
T'inquiète.
Faut rien lâcher.
On va s'entraîner.
Maintenant, c'est tous les jours à La Pampa. Accélère !
T'as vu comme il est fier de toi, ton père ?
Accélère !
Sur l'affiche, deux garçons sont front contre front. Le brun, c'est Saïd El Alami. Le blond, c'est Jojo, joué par Amaury Fauché, dont c'est le premier film. Et vous n'êtes pas prêt d'oublier ces deux-là. Damien Bonnard interprète le père de Jojo, qui veut faire de son fils un champion à tout prix. Pour ça, il fait appel à Teddy pour l'entraîner. Teddy a une femme, bientôt un bébé, et un secret. Teddy est incarné par Artus à l'écran.
Tu fermes ta gueule, t'as rien vu, ok ?
Si mon père tombe dessus, je suis mort.
Dégage. C'est fini, y'a plus rien, y'a plus de championnat, plus de croix. J'ai dit à ton père, c'est mort, d'accord ?
Qu'est-ce que tu fous, Willy ?
Mais vous voulez pas me laisser tranquille une fois ?
Vous ramenez ta gueule ici !
Papa !
Tu me fais honte, je passe pour qui, moi ?
Moi, j'ai grandi dans un village aussi, qui aurait pu être celui-là, voilà. Et
celui du film.
Ouais, et Teddy, il a un secret, donc on découvrira dans le film. Et c'est pas un méchant, c'est une figure virile, masculine. Du village, mais c'est surtout un personnage lâche, et qui malheureusement, à cause de cette lâcheté, vivra malheureux toute sa vie. Et là, en plus, l'histoire, elle raconte quelque chose, elle dénonce. Moi, le but aussi d'aller sur ce style de film, c'est de, de ramener maintenant mon public qui est plus populaire à voir ce genre de film aussi, parce que pareil...
Ce genre de film, c'est-à-dire quand même pour préciser, l'un des thèmes forts du film, c'est l'homophobie.
C'est l'homophobie, c'est l'homophobie, mais c'est surtout l'intolérance. Ça pourrait être avec, sur un autre sujet, c'est montrer comment dans certains milieux encore, l'effet de meute et de groupe peut être dévastatrice. Il y a un truc vraiment de comme un village entier ou comme un groupe de gens peut se retourner sur un truc alors qu'on devrait juste s'en foutre de qui couche avec qui et de qui prie qui, voilà. Mais il y a ce truc un peu de si on sort du rail, c'est encore des endroits où on est... Et comme c'est des petits villages et que c'est des trucs et que tout le monde se connaît, c'est soit on quitte le village, soit on fait des choses qu'on regrette, mais on est obligé de s'extirper de là.
Elle se fait appeler Siza, et ça s'écrit S-Z-A, S comme souveraine et Z comme zigzag.
Rebecca Manzoni, c'est Totémique sur France Inter.
C'est quoi vos tatouages ? Il y a une phrase ?
Là, c'est « Je tiens ce monde pour ce qu'il est, un théâtre où chacun doit jouer son rôle ». C'est une phrase du Songe d'une nuit d'été. Là, j'ai un petit truc en plus, mais avec une faute d'orthographe. Parce qu'en fait...
C'est un p'tp.
Voilà, parce que j'ai fait faire deux lettres à chacun de mes acteurs. Et comme Ludovic ne sait pas écrire, je lui ai dit « Fais-moi un i ». Il a dit « C'est ça un i ?» J'ai dit « Ok, c'est ça un i ». Et du coup, j'ai un p à la place du i. Mais ils m'ont tous fait deux lettres. Et puis là, j'ai mes parents, ma sœur, ma femme, mon meilleur ami. Jacques Brel, évidemment.
On va l'écouter, Brel.
Avec plaisir.
Parce que c'est la voix que vous avez choisie.
Avec plaisir.
Vous aimez Brel au point de l'avoir dans la peau, quoi.
J'aime Brel, mais je suis pas un, j'ai pas des posters, je suis pas un fan machin et tout. Mais
bah, vous fait, avez pas des posters, vous avez un tatouage.
Oui, non, mais c'est vrai que j'ai le tatouage de Jacques Brel.
C'est quand même pas rien.
Mais parce qu'en fait, ça a accompagné, il a tellement accompagné des moments de ma vie et tellement de chansons. En fait, il y a un truc de, ouais, de balmusette hyper festif, et de, les Flamandes, un truc machin, et en même temps des textes d'une profondeur comme Orly. Où on peut chialer juste en écoutant la musique. Enfin, voilà, je trouve ça fou de faire ça. Et puis l'interprétation, c'est un interprète. Ma mère a eu la chance de le voir sur scène à l'Olympia. Moi, ça aurait été mon rêve, ce côté. Justement, je suis pas beau, j'ai pas les traits du mec beau. J'ai les dents en avant, j'ai machin. Je suis sur scène, je perds des litres, je transpire en devenir dégueulasse. Mais putain, j'ai un charisme et un truc qui envoie où je pense que quand tu le vois sur scène, t'es amoureux du gars, peu importe la gueule qu'il a, et peu importe, il y a un truc de à 400%, quoi. Je suis là, je chante pas, je fais pas des vibes et des trucs pour vous faire plaisir, je fais un truc de, je suis habité par tout ce que je dis, quoi.
L'archive qu'on va écouter, c'est une archive qui date de 1964. dans une émission que j'utilise assez régulièrement dans Totemic, c'est Discorama.
D'accord.
Avec une femme assez fantastique qui s'appelait Denise Glaser. Et...
Après, je ne partage pas tout ce qu'il a dit, hein, Jacques Brel, parce qu'il y avait des choses sur les femmes qui, des fois, étaient un petit peu border.
Mais là, il n'est pas question des femmes. Là.
D'accord.
Il y a une chose qui est intéressante aussi dans vos chansons, c'est que vous allez jusqu'au bout de quelque chose. Et vous osez plutôt aller même jusqu'à un certain mauvais goût qui est au-delà du mauvais goût.
Ah oui, sûrement. Ce n'est peut-être pas beau, c'est peut-être une faute de goût, encore une faute de goût. Ça se discute, ça se défend, une faute de goût. Mais enfin, par moments, j'ai nettement l'impression de commettre des fautes de goût. Mais je me considérais comme un salaud si je n'avais pas été au bout de cette faute, au bout de cette envie, au bout de cette liberté. J'aime bien ce luxe-là, je crois que c'est ça la liberté, c'est pouvoir se tromper encore. Je prends ce risque, ça ferait une des rues de ma vie où j'aurais jamais été jusqu'au bout. Et je mourrais imbécile dans 10 ans sans savoir si c'était une rue ou une impasse. Et je préfère y aller voir.
Ces tournures de phrases, c'est... Il y a une phrase que j'aime beaucoup de lui qui dit « La bêtise est la mauvaise fée du monde ». Et je suis d'accord avec ça, c'est la bêtise et de ne pas s'intéresser qui crée cette haine ambiante et ce truc de « parce qu'on s'intéresse pas aux autres ». Et voilà, et je trouve que « Il ne me quitte pas », qui est aussi une des plus belles chansons, je pense, du répertoire français.
On a commencé avec un slow et on finit avec « Ne me quitte pas ».
Non, mais elle est si belle et c'est si beau d'entendre ce gars justement dire... Voilà, me quitte pas, laisse-moi devenir rien, une merde. Enfin, tu vois, il y a un truc de pff, qui est et puis l'interprétation encore une fois qui est folle.
Est-ce que vous avez une carte blanche ?
Est-ce que j'ai une carte blanche ?
Parce que alors, je crois que vous aviez choisi au départ le texte de la chanson des vieux amants.
Oui. Vous voulez pas de Brel ?
Ben, ça fait deux fois Brel. L'idée c'était d'ouvrir.
Du coup, j'ai pas. Qu'est-ce que je peux vous lire ? C'est con parce que les textes de Brel, c'est des poésies.
Non, mais faisons les vieux amants.
Il y a Orly aussi, il y en a plein, si vous voulez. Je crois qu'Orly, elle est même mieux à raconter.
Alors, Orly.
Faut que je vous lise le texte d'Orly, alors.
C'est l'idée.
Ok. Ils sont plus de 2000 et je ne vois que deux. La pluie les a soudés, semble-t-il, l'un à l'autre. Ils sont plus de 2000 et je ne vois que deux. Et je le sais qu'ils parlent. Il doit lui dire je t'aime, elle doit lui dire je t'aime. Je crois qu'ils sont en train de ne rien se promettre. Ces deux-là sont trop maigres pour être malhonnêtes. Ils sont plus de 2000 et je ne vois que deux. Et brusquement, ils pleurent. Ils pleurent à gros bouillons, tout entourés qu'ils sont d'adipeux en sueur et de bouffeurs d'espoir qui les montrent du nez. Mais ces deux déchirés, superbes de chagrin, abandonnant aux chiens l'exploit de les juger. David ne fait pas de cadeau. Et mon Dieu que c'est triste, Orly, le dimanche, avec ou sans Béco. Et maintenant, ils pleurent, je veux dire tous les deux. Tout à l'heure, c'était lui lorsque je disais « il ». Tout encastrés qu'ils sont, ils n'entendent plus rien que les sanglots de l'autre. Et puis infiniment, comme deux corps qui prient, infiniment, lentement, ces deux corps se séparent. Et en se séparant, ces deux corps se déchirent. Et je vous jure qu'ils crient. Et puis ils se reprennent, redeviennent un seul, redeviennent le feu, et puis se redéchirent, se tiennent par les yeux. Et puis en reculant, comme la mer se retire, ils consomment l'adieu. Ils bavent quelques mots, agitent une vague main, et brusquement ils fuient sans se retourner, et puis ils disparaissent bouffés par l'escalier. La vie ne fait pas de cadeau, et nom de Dieu que c'est triste, Orly le dimanche, avec ou sans Béco. Et puis il disparaît, bouffé par l'escalier, et elle reste là. Cœur en croix, bouche ouverte, sans un cri, sans un mot, elle connaît sa mort. Elle vient de la croiser. Voilà qu'elle se retourne et se retourne encore. Ses bras vont jusqu'à terre, ça y est. Elle a 1000 ans. La porte est refermée. La voilà sans lumière. Elle tourne sur elle-même. Et déjà elle sait qu'elle tournera toujours. Elle a perdu des hommes, mais là, elle perd l'amour. L'amour lui a dit... Revoilà l'inutile. Elle vivra de projets qui ne feront qu'attendre. La revoilà fragile avant que d'être à vendre. Je suis là. Je la suis. Je n'ose rien pour elle. Que la foule grignote comme un quelconque fruit. Elle est incroyable, cette chanson. C'est une séparation à Orly et c'est raconté avec tellement de bouffées par l'escalier. Elle a les bras qui vont jusqu'à terre, ça y est, elle a 1000 ans. Enfin, il y a même cette tournure de phrase, et voilà qu'il pleure. Maintenant, c'était. Enfin, je veux dire, tous les deux, tout à l'heure, c'était lui, lorsque je disais il. Donc, même ça, de montrer que c'est lui qui pleure plus qu'elle. Enfin, il y a. C'est là que ce personnage est complexe. C'est qu'il a eu des propos particuliers, et en même temps, je le sens profondément ouvert et aimant les femmes et féministe, mais c'est particulier.
La dernière séquence de cette émission, c'est une séance photo.
Très bien.
C'est plus une conclusion.
Lui aussi, il a 1000 ans.
On l'a fait là, comme ça ?
Comme vous voulez.
Alors, en revanche, pour le coup.
Je dois faire un selfie avec ça ?
Ah, vous pouvez faire un selfie ? Non, non, mais vous pouvez faire un selfie. Ça, c'est jamais, j'ai jamais fait.
C'est vrai ?
Ouais.
Allez, bah, venez avec moi, quand même, c'est mieux.
Ok. On va la regarder. Le temps que ça se développe.
Ouais, c'est ça. On peut refaire une interview si vous voulez en attendant. Je peux relire une chanson de Brel. Il y a une chanson, par contre, dans Les Vieux Amants. Il y a une phrase qui, pareil, que je trouve folle dans Les Vieux Amants, qui dit on avait réussi l'exploit de devenir vieux sans être adulte. Et ça, je trouve ça tellement important. Je pense vraiment que c'est ce qu'il faut qu'on ait tous en tête, de devenir vieux sans être adulte. Parce que. Qu'est-ce que c'est chiant d'être adulte.
Donc ça veut dire que vous, vous étiez un enfant heureux.
J'étais un enfant heureux, torturé, angoissé, mais heureux. Mais en tout cas, c'est, en fait, je me sens plus enfant aujourd'hui qu'avant. Aujourd'hui, je suis un enfant heureux. Voilà.
On regarde la photo.
Bah regardez, on est bien. On dirait vraiment une fin de soirée étudiante.
Flash plein pot.
Ah ouais, là on est sur X.
Merci beaucoup Artus.
Merci à vous, c'était un plaisir. Merci beaucoup.
La Pampa est un film d'Antoine Chevrolier avec Saïd El Alami, Amaury Fauché, Damien Bonnard et Artus. Le film sera en salle mercredi prochain, 5 février. Koyen Guyen réalise Totémique et c'était avec Loïs Moreau ce matin. Perrine Malinge programme nos invités. Ilinka Negulescu prépare l'émission et JB Audibert prend soin de nos disques. La semaine prochaine, on sera dans une loge de théâtre avec le comédien Swan Harlow.